Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 56 74 76 85. Audoradio, la radio plus près de chez vous. Site internet www.audoradio.net.
L'association Loi 1901, une boîte un toit de Saint-Loubès, assure le tri sélectif et le recyclage par la collecte de conserves, canettes, aérosols, électroménagers et tout autre métaux. S'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable et de solidarité en redistribuant les revenus rassemblés aux familles en difficulté. Enlèvement gratuit. Passage sur appel au 06 73 02 81 42 et plus d'informations sur notre site internet www.uneboiteuntoit.fr.
Présent à ce nom depuis 20 ans, toute l'équipe de votre restaurant Pizzeria Marco vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des produits frais et cuisinés maison, midi et soir, du lundi au vendredi et le samedi soir. Retrouvez votre restaurant Pizzeria Marco à sa nouvelle adresse, 5, 7, rue Condorcet à ce nom, sortie Rocade numéro 25. Le restaurant Pizzeria Marco, c'est aussi des repas de groupe, des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des repas d'entreprise, des séminaires et un service traiteur. Études et devis personnalisés, contactez-nous. Retrouvez l'ensemble de nos offres et la carte du restaurant Pizzeria Marco sur notre site internet www.pizzeriamarco.fr.
Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3.
Bonjour et bienvenue, c'est mon nouveau journée sur le 413 ou de radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et on se retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé le jour même à 18h. On n'oublie pas le podcast, la possibilité de venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions via le site odoradio.net. Allez, ce rappel récurrent réalisé, qu'allons-nous retrouver au sommaire de ce journal? C'est ce que je vais sans plus tarder vous dévoiler. Dans quelques instants, ce seront Amel et Hassan qui vont nous présenter quelques brèves. Notre invité du jour, Daniel Briot, il est écrivain. On va parler de son essai intitulé « Jardin philosophique partagé ». Pour la partie musicale, eh bien Ancha et Marie l'astérisque, voilà, si je prononce mal, se sont unis pour à la fois un concert qui va se dérouler le 6 mars prochain, ce sera l'espace culturel du Bois Fleuri à Lormont, et on aura le plaisir de les recevoir ce jeudi 26 février dans le cadre du magazine culturel. Donc là, on écoutera une chanson « Don't Give Up » qu'elles interprètent ensemble, et on aura des invitations, hein, j'insiste là-dessus, à vous faire gagner jeudi. On en reparlera, on clôturera ce journal par notre habituel agenda culturel avec parmi les temps forts bien sûr ce carnaval monstre qui arrive à grands pas pour ce dimanche, et en amont ce sont des ateliers qui sont menés de main de maître par les deux co-organisateurs, à savoir le Rocher de Palmer via Musique de Nuit, l'association, et la Rock School Barbé. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, et comme on est mardi, le magazine thématique du mardi, c'est le magazine Les Rives des Sciences, réalisé en partenariat avec Capscience, et sur ce mois de février on va continuer à parler de conquêtes spatiale, ce sera juste après notre journal, voilà, je vais y arriver, mais pour l'instant présent, eh bien place aux brèves présentées par Amel et Hassan pour ouvrir ce journal en ce mardi 24 février sur Eau de Radio.
Plusieurs vols de drones ont eu lieu au-dessus de Paris dans la nuit de lundi à mardi. Selon plusieurs sources policières citées par l'AFP et Reuters, au moins 5 drones ont survolé l'ambassade américaine, les Invalides, la Concorde et la Tour Eiffel. Pour l'instant, les pilotes des drones n'ont pas été interpellés. Je cite une source policière, « Il pourrait s'agir d'une action coordonnée, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. »
Eric Ardouin est nommé délégué régional Orange pour la région Aquitaine. Depuis le 1er janvier 2015, Eric Ardouin, successeur à Gérard Krebs, a rejoint l'équipe de Vincent Bouillard à la direction Orange Sud-Ouest pour accompagner les collectivités locales de la région Aquitaine. Il sera l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques de la région Aquitaine. Son rôle sera d'accompagner les régions Aquitaine. Excusez-moi, son rôle sera d'accompagner les collectivités de la région dans l'accélération et le déploiement du très haut débit et de rendre accessible au plus grand nombre les bénéfices des technologies numériques.
L'établissement français du son lance un appel de venir donner votre son aujourd'hui à Florac, espace Lucie Aubrac, rue Léo Lagrange, de 16h à 19h. Ensuite, il y a aussi la possibilité de faire un don de son sur le site Bordeaux Pèlerin, l'un marmère de 10h à 18h aujourd'hui, de 10h à 18h30 jeudi, de 8h à 17h vendredi et de 9h à 13h le samedi. Il y a un parking à la disposition des donneurs.
Du 16 au 27 février, le point CAF à Bordeaux-Saint-Pierre sera fermé à raison des travaux. Durant cette période, la chaise à Bordeaux-Lac est à votre disposition de lundi à vendredi sur rendez-vous dès sa réouverture lundi 2 mars. Les professionnels de la CAF accueillent les clients exclusivement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, allez sur le site caf.fr, espace ma CAF, rubrique contacter ma CAF.
Selon les derniers résultats publiés par Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2014, les radios associatives marquent une augmentation conséquente de leur nombre d'auditeurs cumulés, 160 000, et de leur durée d'écoute par jour, plus 11 minutes, par rapport à la vague novembre-décembre 2013. Le syndicat national des radios libres accueille ce bilan avec satisfaction et adresse ses félicitations aux équipes radios libres. Il les encourage à poursuivre leur travail d'information proximité, de culture, de territoire et d'émergence.
L'ANSAP dialogue à tous les étages. Cet événement se déroulera aujourd'hui à 18h30 au 308 Maison de l'Architecture. Les deux intervenants, Bernard Blanc, directeur régional Aquitaine, et Aline Rodriguez Lefort, enseignant à l'ANSAP BX et architecte associé SCOP Atelier, tiendront un discours autour de postulats, de l'un pour Aquitanis, office public d'habitat. Le plus important, c'est le logement, et de l'autre pour l'atelier provisoire coopérative d'architecture. Tout est projet. Ce dialogue a été initié par une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre il y a quelques années autour des thématiques inépuisables de l'habitat.
Et pour finir, exposition Côté Nature. Dès hier et jusqu'au samedi 28 février, Millie Mellard accueille tous les jours de 15h à 19h une exposition Côté Nature présentée par le peintre José Ovejero. À l'occasion, il travaillera sur place, permettant ainsi des démonstrations chaque jour. Le vernissage se déroulera ce jeudi 26 février à partir de 18h30. L'entrée est gratuite. Pour plus de renseignements, contactez Millie Mellard au 06 75 85 01 69 ou par email milliemellard@gmail.com.
Amel Hassan, merci.
Merci.
Allez, à demain pour de nouvelles infos. Et on va accueillir, comme il se doit, notre invité du jour, Daniel Briot, auteur de Jardin philosophique partagé. Daniel, bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour.
Alors, sans retracer l'intégralité de votre biographie, on peut préciser, afin de vous présenter, que vous êtes agrégé de mathématiques, vous avez été enseignant, principal d'un collège, proviseur de plusieurs lycées, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, c'est bien cela?
Tout à fait. J'étais proviseur à Lormont en particulier.
Voilà, donc sur la rive droite que vous connaissez bien, rive droite bordelaise. Et en tant qu'écrivain, vous n'en êtes pas non plus à votre coup d'essai, car déjà auteur d'un ouvrage diffusé dans votre milieu professionnel, pilotage et projet d'établissement, enjeux, démarches, outils. Alors vous le précisez vous-même, vous êtes autodidacte en philosophie, comme vous vous décrivez donc, mais qu'évoquez dans vos années lycée Socrate, Platon et Aristote, entre autres?
C'était l'occasion de débat avec le professeur de l'époque. Je n'ai pas forcément beaucoup accroché à cette époque, Platon, etc. Bon, peut-être que la maturité, lorsqu'on est élève, est quelquefois inégale. Mais tout de même, j'étais déjà un petit peu enragé de philosophie.
Alors, votre ouvrage qui vulgarise la pensée philosophique, je cite, à qui s'adresse? Est-ce que c'est vraiment aux citoyens lambda que l'on est tous? Est-ce que c'est plutôt pour des amateurs, des férus de philosophie, ou c'est vraiment le citoyen lambda que nous sommes tous?
Je m'en fais. Le citoyen lambda. Je suis convaincu que chaque homme est un philosophe en puissance, voire en exercice. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que la philosophie surplombe nos préoccupations quotidiennes ici et là, mais ça fait rien. Il n'en reste pas moins que ce sont des questions premières et que chacun est à même de se poser ces questions sur ce qui est, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la mort, sur le sens de l'existence, sur ce qui peut fonder nos actes. Et puis en plus, je voudrais dire que on peut penser évidemment qu'il faut avoir un vocabulaire un petit peu spécialisé. Non, moi je suis convaincu qu'on peut pratiquer la philosophie sans s'enfermer dans un jargon que j'évoque quelquefois dans mon ouvrage.
Alors on se pose tous ces questions existantes dans un ciel, sans se dire on fait la philosophie. Et là, par exemple, on peut, comme le Candide Voltaire, d'ailleurs, on va repréciser que vous incitez à la recherche de la vérité par soi-même, donc on peut en débattre les uns les autres, en s'étonnant d'ailleurs au sens de l'ironie socratique. Alors c'est le fruit d'une réflexion, c'est quoi, des débats que vous avez pu changer dans une sphère familiale, cette recherche de la vérité?
C'est un travail personnel tout au long de l'existence, et puis des débats effectivement qu'on a avec son entourage, avec des
étudiants. C'est notre première sphère en même temps,
voilà,
la famille, l'entourage.
Voilà. Et encore une fois, je ne suis aucunement un érudit, je n'ai pas eu l'occasion de lire tant d'ouvrages qu'il aurait fallu sans doute. Pour autant, j'ai eu à cœur également de présenter tous les grands maîtres dans l'ouvrage, 80 auteurs, une centaine même, je crois, d'auteurs. Et c'est aussi l'occasion de présenter toutes les grandes questions philosophiques qui ont été abordées au cours des siècles. C'est vrai qu'il serait présomptueux, imprudent, de vouloir se passer de ce patrimoine constitué au cours des siècles. Mais ce patrimoine-là ne doit aucunement constituer un remède contre la réflexion personnelle. Il ne doit pas, même chez le plus modeste, être un facteur d'inhibition. Non, au contraire, ça doit être simplement un enrichissement, une stimulation, si on a l'occasion de lire. Ce n'est pas forcément indispensable non plus d'être érudit pour pratiquer la philosophie.
Alors votre ouvrage, peut-être dire deux mots sur votre précédent ouvrage. Là, je disais, il a été édité en milieu professionnel uniquement, ou il a pu toucher le grand public?
Oui, non, c'était milieu
juste
professionnel.
Quelques mots,
C'était milieu professionnel. Bon, je prétends pas non plus être un écrivain au sens général du terme, mais bon, cet ouvrage a eu une assez large diffusion dans mon milieu professionnel parce qu'il a été réutilisé pour la formation des personnels, des cadres de l'éducation nationale, disons. Voilà, il s'agit de parler des projets d'établissement et donc tout ce qui peut constituer la politique participative au sein d'un établissement.
Voilà, donc ça c'était un premier ouvrage. Et là, à quel moment on se dit, tiens, je m'attelais à écrire cet essai Jardin philosophique? C'est également un fruit, un long travail de réflexion. Vous écrivez, est-ce que vous écrivez naturellement, ou c'est vraiment dès que vous êtes lancé dans le projet, c'est la plume ou l'ordinateur, je ne sais pas comment vous travaillez.
Je suis un peu besogneux, mais j'ai travaillé sur un ordinateur. Ceci étant dit, c'est un vieux projet que j'ai depuis l'adolescence. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre, mais je n'ai eu ni le temps, ni forcément les moyens aussi, ni la culture peut-être à ce moment-là, de faire ce travail. Donc j'ai attendu la retraite pour m'y mettre, et j'ai passé 5 années de travail comme ça. Mais c'était un travail personnel auquel je tenais, moi, pour moi personnellement, mais aussi pour lancer un certain nombre de débats avec peut-être mes petits-enfants un jour, mais aussi, pourquoi pas, tiens, avec des proches, avec des amis, et puis de fil en aiguille avec un public beaucoup plus large. Voilà, donc laisser cette trace-là pour engager ce débat.
Alors, votre essai compte trois moments, hein, si on peut résumer, notamment les prémices d'une réflexion personnelle, un parcours intime. Donc ça, comment vous avez articulé cette partie? C'est quoi? C'est tout votre vie à un moment? Vous parlez à l'adolescence déjà des prémices de cette envie d'écrire?
Je l'assume plus difficilement en tant que, comment dire, autobiographie. Non, c'était simplement pour montrer, vous prenez une personne quelconque, enfin, et au cours de son existence, dans son parcours de vie, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, il va être amené à aborder chacune de ces fameuses grandes questions philosophiques. Alors j'ai pris mon exemple personnel, mais c'est simplement à ce titre-là. Mais ça n'a rien d'exemplaire, et ça ne veut pas non plus rentrer trop fortement dans l'intimité.
Voilà, mais c'est votre histoire quelque part. On se livre quand on est auteur.
Ça paraît néanmoins un petit peu, oui.
C'est évident d'ailleurs de parler de soi dans un ouvrage.
Non, ça me gênait un petit peu, voilà. Ça me gênait un petit peu, mais forcément, il faut bien donner un peu de chair aussi, hein. Ça montrait qu'à telle ou telle période, j'étais amené à me poser telle et telle question, et à partir ensuite de la présentation des grands auteurs, eh bien, on est amené à reclasser toutes ces questions et à les aborder les unes après les autres dans l'ouvrage, dans quatre grandes parties qui suivent.
Allez, on peut les présenter, hein, je ne sais pas, parce qu'il est tellement riche, votre ouvrage. Voilà, on pourrait aborder tellement de thèmes sur la connaissance. Voilà, je ne sais pas comment vous voulez le présenter.
Oh oui, brièvement.
On ne peut pas tout dire non plus, on ne peut pas être exhaustif, c'est pour ça.
Non, non, c'est sûr. Non, je vais présenter quatre grandes parties, puis, il y a aussi un objectif, vous l'avez compris, de présenter mes propres réflexions aussi, très modestement.
Hein, votre parcours, contribuer, hein. Oui.
Et donc, ma prise de position s'oriente vers deux gros mots, là, qui s'appellent le matérialisme et l'humanisme, et donc on va peut-être revenir sur ces deux points. Donc, les quatre parties. La première partie, bien, ça concerne ce qu'on appelle en philosophie l'ontologie, mais c'est un gros mot ça aussi. Donc c'est qu'est-ce qui est dans notre univers? D'abord, existe-t-il quelque chose a priori, hein, c'était la question de Leibniz à l'époque. Donc qu'est-ce qui existe et quelles sont les substances, de quoi est fait notre univers? Deuxième grande question, à partir du moment où on pense que l'univers est fait de telle ou telle chose, qu'il y a, par exemple, un certain nombre de lois essentielles qui le régissent, mais qu'est-ce que l'on peut connaître de ces lois? C'est-à-dire, quelle est l'intelligibilité de l'univers? Alors, quels sont les statuts de nos connaissances? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce qu'on s'en rapproche ou pas? Voilà, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, eh bien, ça concerne c'est un zoom plus particulier sur une partie de nos connaissances, c'est-à-dire sur la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'existence d'un homme en particulier? Quelle est sa place dans la biosphère a priori? Et puis, donc toutes les grandes questions, existentialisme, etc., je l'ai dit, le sens de l'existence, sur le bonheur, sur l'art, enfin bref. Et enfin, dernière partie, l'homme n'est pas tout seul, hein, dans ce monde, donc dans sa relation avec l'environnement, avec autrui, eh bien ça pose le problème de sa responsabilité et donc de l'éthique. Des valeurs qui vont fonder son action. Voilà les quatre grandes parties.
Alors une conclusion, quelle sagesse? Est-ce qu'on peut vraiment conclure un ouvrage comme celui-ci? Parce que
alors,
le débat reste entier,
oui,
on peut
vous
toujours...
le savez, dans l'Antiquité, la philosophie s'était définie, d'ailleurs sur le plan étymologique, comme l'amour de la sagesse. Mais il faut s'entendre, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Donc pour les anciens, ça avait un certain sens. Moi, je pense qu'il n'y a pas une sagesse. D'ailleurs, s'il en existait une, la recette coûterait très cher. On se la vendrait. Non. Mais je pense que la philosophie est amour de la sagesse dans la mesure où elle est émancipatrice, dans la mesure où elle nous permet, elle nous incite à poser des questions sur notre monde, sur notre environnement, elle nous incite à réfléchir également sur ce qui fonde l'ensemble de nos actes. Elle contribue à nous rendre moins dépendants de toutes les manipulations, de tous les conditionnements. Elle nous permet aussi de réfléchir sur le statut de nos connaissances. Enfin bref, d'une certaine manière, je pense que la philosophie nous rend véritablement plus libres, plus humains également. Et que, alors pour être un peu grandiloquent, elle est pour une part constitutive de notre dignité.
Pendant que vous écrivez votre essai, est-ce que vous lisiez en parallèle des ouvrages de philosophie ou d'autres ?
Il a bien fallu.
C'était important, oui.
Il a bien fallu.
Des fois, on me dit qu'il faut faire abstraction, il faut être dans son ouvrage personnel, mais il faut bien aller rechercher peut-être des références, des faits historiques ou pas.
Deux années de lecture et de prise de notes, et puis ensuite, poursuite de lecture, mais plus centrée sur tel ou tel thème. Voilà.
Il y a des auteurs référents d'ailleurs, ou des philosophes, ou des auteurs contemporains qui ont été.
J'essayais de présenter tous les auteurs qui ont compté avec une relative objectivité. C'est vrai qu'on peut se nourrir, y compris des pensées les plus éloignées des nôtres. Pour autant, bon, vous m'avez parlé de Platon tout à l'heure. Je ne vais pas parler de Socrate parce qu'il n'a rien écrit. Platon le fait parler, mais c'est pas forcément mon courant à moi. Dans l'Antiquité, j'aurais préféré Démocrite si on n'avait pas détruit tous ses livres. J'aime beaucoup. Alors, pour ce qui est du matérialisme, peut-être, est-ce que je peux me permettre de définir ce que c'est le matérialisme ?
Oui, mais je vous en prie, je vous en prie.
Parce que c'est quelque
chose. On va vulgariser, c'est le but. Hein.
Bah, voilà. Si vous voulez, sur la première partie, il y a quand même cette grande question, qu'est-ce qui est ? Et, il y a deux grands courants en philosophie. Il y a ceux qui ont pensé qu'il y avait deux types de substances dans l'univers, la matière et l'esprit. Le corps et l'âme, si vous voulez, hein, voilà, et qui sont détachables l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle le courant idéaliste, en référence à Platon, justement, parce que pour Platon, ce qui comptait, c'était le monde des idées, c'était donc un monde idéal. Et puis, personnellement, idéaliste n'a aucun rapport avec le sens commun ici. Hein. Personnellement, je suis matérialiste, pas du tout au sens courant non plus. Hein. Un goût immodéré pour les valeurs matérielles, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est que j'estime que je ne détiens aucune vérité, bien entendu, qu'il n'y a que matière, qu'il n'y a qu'une seule substance, et que la pensée est un produit de la matière. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, à partir de là, il y a des conséquences. Chez les auteurs, Démocrite, qui a le premier parlé des atomes, était déjà un des premiers matérialistes. Il y en a d'autres par la suite, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Comte-Sponville, Onfray sont des matérialistes. Diderot, beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle. Des philosophes idéalistes, il y en a aussi beaucoup, comme Platon, etc. Je ne vais pas les citer tous. Des philosophes humanistes, c'est-à-dire qui pensent qu'également il est extrêmement important, indépendamment de ces réflexions sur ce qu'est l'univers, il y a les représentations humaines au niveau de la conscience et tout ce qui concerne l'éthique en particulier. Et j'aime beaucoup Montaigne, j'aime beaucoup des auteurs contemporains également. Je parlais de Comte-Sponville tout à l'heure.
Alors si Platon, on va extrapoler, était là parmi nous en plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise concernant votre ouvrage ? Ça serait certainement un débat fructueux, très long, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Il ne serait pas d'accord dans la mesure où déjà il...
Là, vous en êtes convaincu ?
Ah oui, oui. Il ne serait pas d'accord dans la mesure où il pense, lui, que le corps est une prison pour l'âme et que apprendre à mourir, c'est se préparer, enfin, en essayant de libérer l'âme du corps en accédant à ces fameuses idées, à ce monde idéal. Moi, personnellement, évidemment, je ne suis pas dans ce registre. Mais, encore une fois, c'est tout à fait intéressant de lire Platon. Et il faut, bien entendu, lorsque on va proférer des opinions un petit peu différentes des siennes, le faire avec beaucoup d'humilité.
Voilà, et puis c'est important. De toute façon, faut pas être consensuel aussi. Hein.
Non.
Les confondations, voilà, si on était toujours tous d'accord, il
n'y
aurait pas beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Or, c'est ton ouvrage qui est auto-édité. C'est vrai, quand on en parlait en amont du rendez-vous,
oui.
C'est vrai que nous, on n'est pas des spécialistes, mais c'est pas tout à fait la même chose que éditer à compte d'auteur. Donc, on va plutôt préciser l'auto-édition. Donc, concrètement, c'est vous qui avez mis la main à la poche hein, pour sortir cet ouvrage.
Oui, c'est ça. Oui,
pour vulgariser une fois de plus.
On paie l'édition et rien que l'édition. Et puis, à ce moment-là, les ouvrages qui sont édités, bon, pour le moment, dans mon cas, c'est 300, m'appartiennent. Alors, la distribution, je me l'occupe comme je le sens. Bon, alors, je l'ai mis dans un certain nombre de librairies, par exemple, chez Mola, à Bordeaux, ou à Blaye, ou à Niort, etc. Et fixe le tarif en fonction du prix de revient. Mais par ailleurs, comme j'ai le stock à la maison, je peux me permettre de distribuer mon ouvrage comme je le veux à des amis, à des connaissances, avec des gens avec lesquels...
Ça, c'est entre guillemets le luxe. C'est vraiment
exactement.
Façon de parler de l'auto-éditeur. Hein.
Sinon, on n'a pas d'autre édition, contrainte. On va avoir 10 exemplaires à tout casser. Le premier ouvrage que j'ai fait, par contre, eh bien, il y avait un éditeur et j'ai eu 10 exemplaires. Tous les autres, il fallait les acheter si je voulais les donner à des amis.
Alors là, quelle pourrait être la suite de cet ouvrage? Est-ce que vous envisagez la suite? Est-ce qu'il pourrait y avoir Jardin philosophique partagé 2? Là, vu le temps de travail que ça représentait, là, vous soufflez un petit peu ou il y a des projets, on peut en parler avérés ou en cours?
Oh, je suis parti sur autre chose là, mais ça va être une édition à 20 exemplaires sur le monde de mon enfance, mais vous voyez, le public va
on
être beaucoup
toujours,
plus
restreint. Ce plaisir de l'écriture.
Je termine là, ce travail-là actuellement, mais après, évidemment, je me relancerai sans doute dans quelque chose, si le temps et la santé me le permettent.
Très bien, mais écoutez, juste peut-être dire quelques mots, c'est vrai, sur les côtés pratiques, on parlait d'auto-éditer, vous avez cité quelques lieux, comme la librairie Mola, c'est quand même important pour un auteur, même en auto-édition,
oui.
D'être présent, parce que c'est vrai que quand on parle de librairie à Bordeaux, c'est pas faire ombrage, bien sûr, à certaines librairies, mais Mola, c'est vraiment...
Oui, bien sûr, il faut pouvoir dire à des gens, à des Bordelais, à des amis bordelais, bon ben, l'ouvrage...
Ou puis-je trouver l'ouvrage Et eh bien voilà, telle adresse, en plein Bordeaux qui plus est.
Et ce qui est le plus important à mon sens, c'est de pouvoir organiser quelques débats publics avec un certain public, des rencontres avec 30, 40, 50, 60, 70 personnes pour présenter l'ouvrage et débattre ensuite.
Parce que là, vous aimez bien aller à la rencontre des lecteurs. Hein.
Oui. Voilà, oui. Et animer des petits cafés philo, des choses comme ça, très modestement, encore une fois, mais non, vraiment, c'est... Et montrer aux gens que cette capacité à penser par soi-même est extrêmement importante, et il n'y a peut-être jamais eu autant d'intérêt qu'aujourd'hui à penser par soi-même, non seulement en termes de philosophie générale, parce que l'obscurantisme, on le voit bien malgré tout, même si on avait réussi à le chasser, il revient à nos portes aujourd'hui, mais aussi en termes de philosophie plus pratique, eh bien, il y a une pression des valeurs dominantes, consuméristes, narcissiques, enfin, paraître plutôt que être, etc., une pression aussi de l'émotionnel, et désir immédiat, qui laisse peu de place à l'analyse et à la réflexion approfondie. Donc, il est vraiment important de souligner les enjeux de la réflexion philosophique.
Très bien. Vous voyez, l'heure tourne, pas concernue, absolument pas. Je sens qu'on aurait pu avoir un long moment avec vous. C'est peut-être une dernière question, si on veut avoir plus d'infos, si un libraire ou une association se dit, tiens, mais là, j'étais plus que convaincu, là, vu votre éloquence, etc. Donc, si on veut prendre contact avec vous pour, pourquoi pas, un café philo, une rencontre littéraire, ce sont vos coordonnées personnelles qu'on n'en a pas ou on demande à la radio ou on peut...
Oh, je peux les laisser, 05 57 42 17 55. Je suis sur l'annuaire à Plassac en Gironde.
Très bien, mais écoutez Daniel Brio, vraiment merci d'être venu nous parler de Jardin philosophique partagé, donc l'essai que vous avez auto-édité.
Merci.
Allez, merci beaucoup. Allez, place à la musique, Valentin à la régie qui me regarde, et oui, Ancha et Marie Lastérisque, voilà, j'ai pas commis le lapsus comme en préambule, de deux artistes bordelaises, même si elles ont des origines vraiment diverses, voilà, c'est la diversité culturelle, l'amour de la musique qui les réunit. Elles seront en concert le 6 mars prochain, pas ce vendredi mais l'autre, pour être plus précis, ce sera l'espace culturel du Bois Fleuri à Lormont. Elles seront présentes ce jeudi dans notre magazine culturel, et connaissant plus particulièrement Tcha, je pense qu'elles vont nous interpréter un ou deux morceaux en live ce jeudi. On aura l'occasion de vous faire gagner des invitations, mais pour l'instant présent, on va écouter cette chanson réalisée en studio qu'elles ont co-réalisée, Tcha et Marie Lastérisque, Don't Give Up, sur Odo Radio. The music showed the rhythm of a step and days.
Would you care about the others that don't run away? It all belongs to you, all belongs to me, yeah. We come to feel the rocking girl, see. It's giving us the joy, happiness, freedom, peaceful and free. Come and open up your eyes and shut your mouth, you'll say. It all belongs to you, all belongs to me. Just open up your arms. Just open up your arms, yeah. Come draw your life on the right way. The shining one that enjoy inside. Don't give it up, don't give it up, and up your mind. Influence, libre de ce que je suis, c'est moi qui mène la danse, quitte à me planter. Mais je tentais même à tâtons, timidement vaut mieux que rien faire, ou pire l'abandon. Je fais pas semblant, je mesure combien mes semblables tentent d'en faire tant et tout pour sortir la tête du sable. Nos côtés sombres, laissons-nous les apprivoiser. Le passé s'effondre dans l'ombre d'une vie brisée. Homme libre, mesurons notre chance, rien lâcher avant d'avoir atteint l'évidence. Ouvre les yeux, ça t'ouvrira l'esprit de voir ses mains qu'on te tend, même si parfois contre temps tu t'enfuis, que tu baisses les bras, que tu te refuses à mater tout autour de toi, lâche pas l'affaire. Je t'assure que ça vaut le coup, la vie est bien tout le contraire de ce qui ne vaut pas un clou.
Come open your arms. Come open your.
Et oui, dernière partie de ce journal de ce mardi 24 février, notre agenda culturel, et pour ne pas trop dépasser le temps imparti, allez, on va essayer de faire dardard selon notre expression favorite, quand il faut gérer le temps. Alors, quelques petits rappels, hein, on est sur une période de vacances scolaires, donc, pourquoi pas, et on vous incite dans ce sens, hein, allez voir ou revoir des expositions. Vous avez par exemple jusqu'à vendredi, Fantaisie claire-obscure, une exposition qui a été choisie dans les collections du CAPC, Musée d'art contemporain du FRAC à Aquitaine, et c'est une exposition qui est présentée en ce moment au Rocher de Palmer à ce nom. On va en reparler d'ailleurs du Rocher. Vous avez jusqu'à ce samedi pour aller voir La Tendresse, présentée par l'illustratrice Laurane Quintric, une exposition de dessins, des planches originales tirées de son album du même nom, où chacun peut y retrouver l'adaptation en image de la jolie chanson de Bourville, un voyage empreint de poésie et de douceur. C'est donc à voir cette exposition jusqu'à ce samedi. C'est plutôt destiné un jeune public âgé de 6 à 10 ans. Donc cela reprend bien mes propos concernant cette période de vacances scolaires. Et c'est en accès libre. Vous avez également Prévert, Le Mourat, récit de vie. Alors c'est un ouvrage qui a été présenté officiellement le 3 février dernier à la médiathèque de Bassins. Mais vous pouvez, à cette même médiathèque jusqu'à samedi, aller bien sûr consulter cet ouvrage, mais aller voir d'autres œuvres réalisées dans le cadre d'ateliers avec les habitants, autour de témoignages, échanges et contributions de toutes sortes sur ce travail de mémoire. Vous avez également jusqu'au 5 mars l'exposition photo à l'Office de tourisme du Créonnais, Regard croisé, Bhoutan et Mongol, Sikkimé, une exposition de photos présentée par l'association Himalayan Héritage et Suche, est à voir donc jusqu'au jeudi 5 mars prochain. C'est accessible du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Pour le samedi, c'est uniquement en matinée, et on en a parlé dans les brèves également. C'est Mélie Mélarf qui vous propose une nouvelle exposition. Elle s'intitule Côté Nature. Elle est accessible toute cette semaine de 15h à 19h. C'est en accès libre. Il y aura le vernissage officiel ce jeudi soir. Ce sera à 18h30 en présence du peintre, voilà, qui est auteur de cette exposition. Alors le Carnaval Monstre, je vous en parlais, c'est ce dimanche bien sûr, ça vous avait dû fleurir dans toute la ville et toute l'agglomération, ces affiches, voilà, cher à Charlie Lemindu, hein, l'auteur de ces gentils monstres, allez, n'ayons pas peur des mots, et bien toute cette semaine en amont de ce carnaval, histoire de le préparer au mieux et que ce soit vraiment bien toute l'agglomération qui s'en saisisse, plusieurs ateliers sont organisés, tant du rocher de Palmer que sur celui de la Rock School Barbé. Alors c'est parti depuis hier, je ne sais pas si on peut s'y raccrocher, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas à contacter le rocher de palmer.fr ou aller sur le site Carnaval des Deux Rives, où là vous aurez toutes les informations requises. Voilà pour aussi, dernière information, c'est pour rappeler ou annoncer que le cirque Sabrina Fratellini va installer pour la première fois ses chapiteaux à ce nom, domaine du Loret, à deux pas d'Odo Radio. Ce sera à partir de ce week-end et on vous en dira plus dès qu'ils seront installés, avec les horaires des représentations, etc. Et en règle générale, eh bien, les membres du cirque ou des autres animations de ce type-là, quand ils viennent sur le domaine, viennent bien sûr en parler au micro de Odo Radio. Donc on attend avec impatience. Allez, on va en rester là concernant ce journal de ce mardi 24 février sur Odo Radio. On va pas partir comme cela, bien sûr. On va remercier toutes les personnes qui ont eu la bonne réalisation de celui-ci, à savoir Amel et Hassan pour la présentation et réalisation des brèves. Merci à Daniel Briot, il est écrivain et venait nous parler de son dernier essai intitulé Jardin philosophique partagé. Vous aurez un petit peu plus d'infos sur le Facebook d'Odo Radio d'ici quelques minutes. Merci à Valentin, la régie technique. Demain, notre invité du jour sera Patrick Soil, le directeur artistique du Théâtre Furieux, une compagnie de théâtre senonnaise. Il viendra nous parler des combustibles, d'après Amélie Nothomb. Voilà, c'est la dernière pièce qu'ils ont montée, entre guillemets, avec des représentations du 6 au 8 mars, puis les 14 et 15 mars prochains au Château Palmer à ce nom. Mais d'ici là, on va retrouver notre magazine Les Rives des Sciences, la conquête spatiale et la thématique de ce mois de février. C'est réalisé en partenariat avec Capscience et animé par Sandrine. Sans plus tarder, voilà le magazine Les Rives des Sciences. Sur...
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Odo Radio, sur la fréquence 91.3. Et c'est l'heure de notre magazine scientifique sur les rives des sciences, un magazine réalisé en partenariat avec Capscience. Et ce mois-ci, je vous propose de voyager à la conquête de l'espace. Si l'homme observe les astres depuis des dizaines de milliers d'années, c'est seulement depuis un demi-siècle qu'il a les moyens technologiques d'aller à leur rencontre. Les grandes découvertes du XXe siècle nous font rêver et certains vont jusqu'à penser que l'avenir de l'homme est et dans l'espace. Et pour cette dernière émission sur la conquête spatiale, on retrouve donc nos deux invités qui vont nous parler aujourd'hui des technologies aérospatiales au service des conquêtes. Donc c'est Sarah Feinstein-Baum, doctorante en astrophysique au laboratoire astrophysique de Bordeaux, et Jean-Marc Salotti, professeur des universités en robotique à l'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux INP. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on va revenir sur les technologies aérospatiales. Alors quelles sont actuellement les technologies utilisées, les grandes technologies utilisées en aérospatiale?
Eh bien donc il y a surtout les systèmes de propulsion qui ont été mis au point déjà d'ailleurs dans les années 60. Les systèmes de propulsion actuellement fonctionnent en tout chimique, c'est-à-dire en fait on utilise tout simplement des composés chimiques qui vont réagir et par tout simplement avec la température et la pression qu'ils vont exercer, il va y avoir des gaz qui vont être éjectés, et c'est le système de propulsion, enfin tous les systèmes de propulsion au décollage exploitent donc ces des technologies comme ça, enfin des systèmes chimiques.
Donc ça c'est pour les fusées, hein.
Voilà. Ça c'est pour les fusées. Enfin, on a pour venir ce point, si vous voulez, pour l'avenir. Enfin, pour l'avenir immédiat, on va dire, il n'y a pas véritablement. Et pourtant, Dieu sait que la NASA et d'autres organismes, d'autres agences spatiales ont fait des études sur le sujet. Mais il n'y a pas véritablement de révolution à attendre dans un avenir proche pour le décollage des fusées. C'est-à-dire qu'en fait, ça risque toujours d'être un petit peu. Par exemple, vous savez, Ariane fonctionne avec hydrogène et oxygène liquide. Ce sont les systèmes de propulsion chimique pour le moteur principal, et puis donc, enfin, tous les systèmes fonctionnent avec des produits des chimiques. Mais une fois qu'on est dans l'espace, parce que donc ça c'est pour avoir une grosse poussée là au décollage, une fois qu'on est dans l'espace, qu'on a réussi donc à atteindre une orbite, là on n'a pas besoin d'une poussée aussi importante. Ça veut dire qu'on peut si vous voulez, accélérer tout doucement. Hein. Au décollage, on est vraiment obligé de mettre une grosse poussée, mais une fois qu'on est dans l'espace, bien, ma foi, si on accélère tout doucement, c'est pas grave. Et c'est intéressant parce que, justement, il y a des systèmes de propulsion électrique qui sont envisagés, d'ailleurs, dont certains fonctionnent déjà, qui permettent une grosse économie de carburant. Parce que le carburant, c'est le problème numéro un de l'ingénieur en astronautique. Hein. 90% de la masse d'une fusée au décollage, c'est du carburant. Donc il faut vraiment essayer de minimiser tout ça. Malheureusement pour le décollage, donc on peut pas, mais une fois qu'on est en orbite, eh bien on peut gagner beaucoup en efficacité et en éjectant finalement les gaz à bien plus grande vitesse, eh bien on peut donc finalement atteindre la même accélération mais avec beaucoup moins de carburant. Et donc en fait tous les systèmes maintenant actuels qu'on envisage pour le futur finalement, eh bien vont exploiter ce qu'on appelle en fait une impulsion spécifique. Bon, c'est un terme un petit peu technique, mais finalement vont avoir une efficacité bien plus importante, et ce qui permettrait par exemple d'avoir seulement la moitié de la masse de la fusée en carburant au lieu d'avoir 90%, quoi, voyez. Donc en fait c'est extrêmement important. Et c'est l'avenir, hein, finalement. Ce sont alors peut-être avec la propulsion, parce qu'on a par exemple la propulsion nucléaire électrique. Alors il faudra peut-être embarquer peut-être un petit réacteur nucléaire, mais en tout cas, ce serait sans doute sur le long terme, en tout cas, la technologie envisagée, et qui permettrait de gagner quand même pas mal, notamment pour des voyages très loin, très longs souvent, mais donc pour permettre de les réduire et pour pas consommer beaucoup de carburant. Eh bien, ça serait l'avenir. Propulsion nucléaire, électrique, ça n'existe pas encore. Pour l'instant, il existe la propulsion solaire électrique, avec des panneaux solaires, mais qui est quand même beaucoup moins efficace, puisque il faut des panneaux photovoltaïques gigantesques, hein, pour pouvoir produire la même puissance. Et donc, les réacteurs nucléaires, ce serait sans doute plus efficace.
Donc ça... Quand est-ce qu'elle consomme la fusée, quand est-ce qu'elle a besoin de carburant? C'est tout au long du voyage ou c'est juste c'est essentiellement au départ et à l'atterrissage?
Alors, bonne question. En fait, la fusée décolle. Pour décoller, elle a besoin de beaucoup de carburant. Une fois qu'on est en orbite, typiquement en orbite basse, c'est-à-dire qu'on tourne en rond autour de la Terre, il n'y a plus besoin de carburant. Hein. On ne fait rien, ça tourne toujours. Et donc, c'est une phase tranquille où on n'a pas besoin de carburant du tout. Mais si on veut se déplacer, si par exemple si on veut aller vers Mars, Et bien donc là, on a besoin de donner d'allumer encore les moteurs. Et ce qui se passe donc, c'est que on fait encore ça quelques minutes, enfin pour aller vers la Lune ou Mars, hein, donc c'est le même problème. En quelques minutes on allume les moteurs pendant quelques minutes et enfin du moins en tout chimique, on fait ça pendant quelques minutes et ça y est, après on coupe les moteurs et sur notre lancée, on a acquis suffisamment de vitesse pour rejoindre directement Mars. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement les fusées. Toutes les fusées fonctionnent sur ce système-là. Donc, une fois qu'on est en orbite, quelques minutes, et ça y est, on coupe les moteurs, et sur la vitesse acquise, ça nous permet d'aller jusqu'à la planète, sachant qu'évidemment, dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc on n'est pas freiné. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de remettre du carburant. C'est bon, on va atteindre Mars. Mais, donc, pour revenir à la propulsion électrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une accélération beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, on était beaucoup, beaucoup plus économe en carburant, mais on accélère tout doucement. Et si on accélère tout doucement, eh bien, on met du temps à acquérir la vitesse qu'il faut pour aller vers Mars, par exemple. Eh bien, donc on envisage de prolonger l'accélération. Puisqu'on ne consomme pas beaucoup de carburant, on peut continuer à accélérer. Et souvent, donc, on propose des systèmes qui permettent d'accélérer pendant très longtemps. Et donc, gagner beaucoup de vitesse, il faut beaucoup plus de temps. Mais donc finalement, dans ce cas-là, l'accélération est quand même beaucoup plus longue. Donc là, on a toujours cette poussée qui agit, qui peut agir peut-être pendant plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours, et pourquoi pas même plusieurs mois en fait, si on avait vraiment une très grande efficacité au niveau de la propulsion.
Donc l'enjeu, c'est bien la gestion du système de propulsion pour la gestion du carburant. C'est l'enjeu des nouvelles technologies à venir.
Voilà, exactement.
Voilà. Alors il y a le carburant, mais il y a aussi le système énergétique. Donc l'alimentation, l'électricité sur place.
Voilà, disons que il y a eu plusieurs missions, comme par exemple voilà Scoop Spirit et Opportunity sur Mars, qui ont utilisé des panneaux solaires pour alimenter tous leurs instruments scientifiques. Mais voilà, comme on a pu voir, par exemple sur Mars, il y a de nombreuses tempêtes de sable, donc les panneaux solaires, ils peuvent voir leur efficacité diminuer. Et donc là encore, on va peut-être se tourner de nouveau vers des générateurs thermoélectriques. Donc pareil, il y a des petits engins nucléaires aussi pour pouvoir au moins produire de l'énergie, de l'électricité pour faire fonctionner tout l'engin de manière beaucoup plus fiable. Quoi.
Oui, donc il y a des avantages et des inconvénients suivant le lieu où on va, c'est-à-dire qu'entre Mars et d'autres planètes, les technologies ne seront pas les mêmes.
Oui, voilà, il faut juste pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel on va. Après, dans l'espace, comme on l'a dit tout à l'heure, les panneaux solaires, ça marche très bien, simplement il faut qu'ils soient très grands. Mais c'est sûr que les générateurs thermoélectriques, c'est peut-être toujours la solution la plus facile aujourd'hui, je ne sais pas.
Ouais, surtout, en tout cas, si on veut minimiser la masse, et puis tout en ayant un système qui permet de fournir de l'énergie pendant très longtemps. Et il y a quand même une autre chose à dire peut-être sur ce sujet, c'est les technologies, les productions énergétiques à la surface d'autres planètes. Et c'est-à-dire que si on envisage un jour de vivre sur la Lune ou sur Mars, et qu'on veut établir une base permanente, il faudra sans doute donc des systèmes qui produisent de l'énergie pendant des années, des dizaines d'années peut-être même. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, le problème est très intéressant, parce que sur la Lune et sur Mars, il n'y a pas du tout d'hydrocarbures, pas de pétrole, pas de gaz naturel, et par conséquent, même pas de bois d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de végétation. Même si on pourrait, pourquoi pas, la produire sous serre, sur ces planètes. Mais donc, ce problème-là, finalement, quelque part, il ressemble un petit peu à ce que pourrait être le problème sur Terre dans quelques milliers d'années, je ne sais pas, ou peut-être pas si longtemps que ça, d'ailleurs, vu que les ressources fossiles s'épuisent. Donc, quelque part, on rejoint un petit peu les problématiques terrestres de production énergétique, et c'est assez intéressant, parce que les technologies, finalement, auxquelles on pourra aboutir, quoi, finalement, pour des bases permanentes planétaires, enfin extra-planétaires, pourraient nous servir peut-être un jour sur Terre, finalement. Et d'ailleurs, dans ce domaine, il y a de nombreuses pistes à suivre. Il y a les panneaux solaires, qui sont photovoltaïques, notamment, qui existent et qui peuvent, pourquoi pas, fournir un appoint pendant la journée. Mais évidemment, la nuit, ça pose problème. Mais il y a tout un tas de choses qui sont possibles, parfois un petit peu bizarres d'ailleurs, pourquoi pas, mais juste une pour vous donner une petite idée, ce sont les technologies qu'on dit STEP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire en fait, sur Terre ça fonctionne, c'est tout simplement, vous mettez deux réservoirs d'eau, un placé en hauteur et l'autre en, un peu plus bas. Et donc vous faites la production hydroélectrique avec voilà, de l'eau qui passe de réservoir du haut vers le réservoir du bas. Alors évidemment, ça, une fois qu'on a épuisé l'eau d'en haut, c'est fini. Mais pendant la journée, si on est malin, puisqu'on a des panneaux photovoltaïques, on peut remonter l'eau grâce à l'électricité des panneaux photovoltaïques. Et du coup, on peut avoir finalement une sorte de, enfin, un système totalement, enfin, qui permet de fonctionner comme ça, qui peut fonctionner pendant des années, quoi. Avec toute la journée, eh bien, on remonte l'eau, et la nuit, quand on a besoin, ben, on redescend l'eau pour produire l'électricité. Et finalement, eh bien, ça suffit. Alors ça existe déjà, hein, en fait, évidemment, sur Terre, on a déjà des, enfin, on a plutôt des rivières, hein, sur Terre pour faire ça, mais ça existe aussi, hein, ça s'appelle donc la technologie STEP, et ça pourrait être d'ailleurs beaucoup plus exploité dans tous les pays, puisqu'en fait, pour les panneaux solaires, tout le monde sait faire à peu près, et puis la technologie STEP, on consomme pas d'eau, hein, puisqu'en fait, on descend l'eau, on la remonte, on descend l'eau, on la remonte, c'est la même eau. Donc on ne consomme pas d'eau, et donc en fait, ben, c'est peut-être l'avenir, enfin, ce genre de choses pourrait être, pourquoi pas l'avenir, dans les pays où on manque d'énergie, et évidemment, le solaire, pendant la nuit, ça marche pas, donc ça peut être une alternative extrêmement intéressante.
On peut dire que l'aérospatiale, les technologies utilisées dans l'aérospatiale peuvent être devancer les technologies des autres domaines et peut-être servir, non ?
Donc dans ces c'est souvent le cas. Il y en a d'ailleurs tout un tas. Tiens, par exemple, vous avez des filtres HEPA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire en fait pour le traitement de l'air, de la poussière, par exemple. Eh bien, vous pouvez acheter maintenant les supermarchés, hein, Oh, c'est très simple en fait, hein, c'est une sorte de ventilateur, après vous avez derrière une sorte de mousse, si vous voulez, qui permet de filtrer l'air, et notamment les petites particules de poussière. Eh bien, ça, ce sont des technologies qui viennent du spatial. Parce que dans le spatial, on ne peut pas ouvrir la fenêtre quand on est dans une capsule, évidemment, dans l'espace. Mmh. Et donc, on est bien obligé d'enlever, malgré tout, parce qu'il faut quand même traiter l'air, hein, on ne peut pas ouvrir la fenêtre, mais il faut quand même que l'air soit respirable et sain. Et par conséquent, eh bien, il y a tout un tas de techniques qui sont développées pour non seulement d'ailleurs enlever la poussière, mais aussi tous les microbes, toutes les bactéries, toutes les particules aussi, hein. Vous avez aussi toutes les particules qui émanent donc du bois ou des peintures, etc., dans les bâtiments, il y en a beaucoup. Et donc c'est une vraie problématique, et dans un vaisseau spatial c'est pareil, il faut éliminer ces particules volatiles, on utilise des techniques particulières pour les éliminer. Et après, eh bien, ça peut être utilisé sur Terre, effectivement, pour des salles blanches, pour tout le monde, tout simplement purifier l'air sans avoir à ouvrir la fenêtre.
Mais c'est sûr qu'il y en a, il y a vraiment un tas d'exemples de choses qui ont été développées dans le spatial et qui servent tous les jours. Les GPS, déjà, voilà, c'est des choses qui ont été développées entièrement pour le spatial, pour la conquête spatiale, et qui nous servent aujourd'hui tous les jours. Hein.
Oui, que ce soit militaire ou que ce soit dans la spatiale, c'est toujours effectivement quelques années d'avance avant que ça aille au grand public et que ça serve. Alors, les technologies aussi, on en a parlé pendant ces quatre émissions, on parle de rovers aussi, hein. Donc ces petits robots, c'est des robots, enfin qui ne sont pas toujours petits d'ailleurs, qui peuvent...
Oui, des fois c'est quand même un petit camion quand même. C'est...
Oui, voilà. Et qui sont très perfectionnés, qui donc font, on l'a entendu hein, sur Mars, font des fois même eux-mêmes les analyses, se déplacent tout seuls. Donc bon, pas toujours très rapide, hein, 35 km en 10 ans tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ça, et c'est aussi la gestion des supports de vie. On en parlait donc de l'air, mais aussi la nourriture.
Ben, la nourriture, c'est pareil. Donc en fait, typiquement dans un vaisseau spatial qui va peut-être avoir avec 3 ans de voyage, si on n'est pas capable de produire la nourriture, eh bien on est bien obligé de la conserver et pendant une très longue durée. Et donc il y a des techniques de conservation des aliments qui ont été développées dans le spatial, effectivement. Et maintenant, c'est très courant, hein. Vous allez me dire, les pâtes par exemple, ça dure déjà, je pense, peut-être plusieurs années, hein, 1 ou 2 ans, on va pouvoir tenir les pâtes, je pense, sans problème. Mais voilà, on a réussi, en fait, la NASA par exemple, notamment, à développer tout un tas de techniques pour que les aliments puissent tenir des plats, hein, carrément, sous sachet, 3 ans, quoi. Typiquement, on arrive à tenir 3 ans.
Et qui prennent peu de place, hein.
Et qui prennent peu de place. Il y a aussi, évidemment, hein, tout un tas de effectivement, au niveau de la masse et de l'encombrement, effectivement.
Mmh. Alors, quelles sont les prochaines technologies de demain et qu'est-ce qu'on peut rêver dans la conquête de l'espace ? Allez, si on rêve un petit peu. Parce que quand on fait ces métiers, on doit rêver un petit peu, quand même.
Complètement.
Vous voulez rêver ? Eh bien, alors, dans ce cas-là, imaginez que vous êtes sur une planète où la gravité est un tiers ou un sixième de celle de la Terre. déjà, pour commencer. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, on se sent beaucoup plus léger.
Ça peut être pas mal, ouais.
Déjà, pour commencer. Et, enfin, je t'apporte ce sujet-là parce qu'en fait, il y a sans doute un domaine, à mon sens, qui risque d'être révolutionné pratiquement si un jour, en fait, on venait à coloniser d'autres planètes, la Lune ou Mars, par exemple. Eh bien, c'est le domaine de la biologie. Parce que la vie s'adapte aux conditions, hein, évidemment, de la planète. Et si vous avez typiquement donc une gravité à un sixième ou un tiers de celle de la Terre, eh bien, la vie sera obligée de s'adapter à un tel environnement. Peut-être que même les conditions atmosphériques seraient différentes, puisque enfin, ça serait sous serre, hein, typiquement, mais on serait obligé en fait d'avoir des conditions assez particulières. Eh bien, la vie s'adapterait, et par conséquent, sans doute les technologies développées en biologie, y compris d'ailleurs peut-être d'ailleurs les OGM. Organismes génétiquement modifiés, parce que autant sur Terre, enfin, il y a une polémique sur l'utilisation des OGM, mais autant dans un environnement comme Mars, par exemple, où les contraintes sont terribles en extérieur, on aurait peut-être envie de développer des organismes capables de survivre. Survivre, oui, c'est pas vivre, là, c'est vivre, survivre véritablement, avec par exemple une pression atmosphérique très faible, voilà, peut-être génétiquement modifiée pour s'adapter. Donc aux conditions particulières de la gravité, mais donc aussi de l'atmosphère, et pourquoi pas aussi des conditions de radiation, des conditions de l'eau, etc. Donc et pourquoi pas, alors là, même encore sur le plus long terme, hein, pourquoi pas aussi l'humain, hein, parce que si on veut respirer nous aussi, peut-être dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'air, hein, vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à respirer à 8000 mètres d'altitude, mais il y a très peu de gens qui arrivent en fait, il paraît que ce sont des caractéristiques génétiques particulières de ces gens-là. Bon, ben, si on arrive effectivement à avoir des gens qui pourraient survivre dans de telles conditions, ben, alors on peut pourquoi pas imaginer l'humain qui s'adapte lui-même à cet environnement, l'humain peut être modifié, génétiquement modifié. Bon, alors c'est la science-fiction, hein, mais ouais. Voilà, c'est pour la conquête spatiale, ça pourrait nous amener véritablement dans des domaines qui nous obligent à une ouverture d'esprit assez importante.
Je vous remercie, Jean-Marc Salotti. Sarah Feuchtenbaum, c'est un rêve ou en réalité proche, hein, peut-être, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, ou qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe en tout cas?
Bah, probablement, au-delà de l'exploration de Mars, là, c'est probable que, peut-être, voilà, d'ici 20 ans, probablement l'homme sera sur Mars. Mais il y a aussi les autres, les autres planètes du système solaire et les autres satellites, voilà, comme Titan, on en parlait précédemment. Voilà, c'est des endroits qu'on pourrait très bien explorer un jour humainement, même si là, ce serait plusieurs années de voyage. Hein. Donc là, pareil, peut-être pas de voyage-retour, on sait pas trop. Mais oui, là, ce serait, disons qu'on va, probablement dans le siècle qui vient, ça va être le siècle où l'humain va sortir de son berceau. C'est quand même le jour où on colonise une autre planète, l'humanité change, évolue. Voilà, là on parlait des conditions atmosphériques, mais il y a l'aspect de la gravité aussi. On ne sait pas comment le corps va réagir à une plus faible gravité. Les gens qui vont naître sur Mars, ce sera des martiens, hein, ce sera plus des humains. Il y a des romanciers qui ont déjà commencé à imaginer comment ça se passerait, même des romanciers très réalistes, hein, comme Kim Stanley Robinson, par exemple, il a fait une trilogie sur Mars, où lui, il imagine qu'au bout de quelques générations, on devient beaucoup plus grand. Parce que la gravité est beaucoup plus faible, il y a moins de contraintes, voilà, sur les os, les muscles, et donc c'est des choses qu'on va probablement voir, voilà, là, dans 50 ans, on verra si ce qu'il avait prévu est vrai.
Assure. Je vous remercie en tout cas à tous les deux donc d'avoir participé à nos 4 magazines scientifiques de ce mois-ci sur les conquêtes spatiales. Je remercie les auditeurs d'avoir été avec nous sur O2 Radio pour notre magazine scientifique sur les rives des sciences. Et si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur la conquête de l'espace, on rappelle que Cap Science et la Cité de l'Espace vous proposent une exposition Odyssée Destination Espace, et ça débute le 13 février donc 2015 de cette année pendant un an. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de Cap Science. Et si vous souhaitez réentendre et nous réécouter ce magazine scientifique, rendez-vous sur notre site internet o2radio.net ou sur le site info de Cap Science siyourmag.net. Et le mois prochain, on parlera des drones. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Vous écoutez O2 Radio sur 91.3.